Ce matin, on va parler d'un sport national où les Barundis sont presque les champions du monde, assez souvent. Et que la Bible dénonce. Qu'on voit souvent malheureusement. Et je vais vous montrer ces mécanismes. Je vais vous montrer comment s'en débarrasser. Comment briser ce joug sur votre vie. Et je vais vous montrer la valeur de l'opposé. Avant de vous dire ce que c'est, je veux vous montrer quelque chose. Vous savez, quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est notre esprit qui va naître de nouveau. Mais très souvent, nous sommes malades du comportement. Nous avons des comportements qui ne sont pas dignes du Seigneur et que la parole de Dieu va nous montrer et il va falloir guérir de ces maladies de comportement. Parce que sinon, nous pouvons bien démarrer avec le Seigneur. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit souvent. On voit des gens, ils sont touchés par la grâce de Dieu. Ils sont touchés par l'amour de Dieu. Et d'un seul coup, ils sont enflammés pour Dieu. Et quelques années plus tard, vous les voyez où ils ont développé des travers épouvantables. Ils ont développé des comportements qui restent, qui sont ancrés en eux. Et à la limite, certains ne s'en rendent même plus compte. Et aujourd'hui, nous allons parler du mensonge. Dis à ton voisin, fais attention. C'est sérieux ce matin. Attache ta ceinture de sécurité. On va parler du mensonge et on va parler comment s'en débarrasser. Comme je disais, c'est un sport national ici. Et il faut vraiment tuer ces mentalités. Tuer ces comportements. Changer ces comportements. Parce que je vais vous montrer que si vous comprenez la puissance de la vérité, il y a les choses les plus extraordinaires qui pourront se passer dans votre vie. Par contre, si vous marchez dans des choses mensongères, ça sera des fruits pourris, ça sera la destruction. Vous serez insensible au Saint-Esprit. Vous n'avancerez plus, vous allez complètement vous endormir spirituellement. Vous aurez des relations qui seront bizarres, des comportements bizarres. Et Dieu ne veut pas ces choses. On va donner la définition du mensonge. D'abord, le mensonge a deux volets, il faut bien comprendre ça. C'est l'énoncer, c'est-à-dire dire quelque chose délibérément. Dire un fait qui est contraire à la vérité. Ça, c'est la première partie du mensonge, le premier volet du mensonge. C'est-à-dire, il y a une vérité, il y a des faits. Il y a des actions et tu dis le contraire. Tu donnes des informations qui sont fausses par rapport à des faits réels ou à des choses qui ont été faites, que tu as faites ou que d'autres ont faites. Ça, c'est le premier volet du mensonge. Le deuxième volet du mensonge, qui est plus subtil, c'est la dissimulation, c'est-à-dire cacher. La dissimulation de la vérité. Et nous allons voir les conséquences dramatiques. Mais vous savez, j'ai réalisé une chose. Et de plus en plus, je le vois. Je le vois, par exemple, dans le conseil pastoral. Je le vois dans différents domaines avec les comportements des gens. Souvent, vous savez, le christianisme, et je l'ai expliqué dans certains domaines, c'est souvent, vous savez, on met l'accent sur « il ne faut pas faire ». On va dire « ça, c'est mauvais, ça, il ne faut pas le faire ». Ça, c'est pas bon. Et ça a amené des gens à devenir extrêmement religieux, ça. C'est-à-dire que les gens se sentent enfermés dans une prison avec des faux pas, faux pas, faux pas, faux pas, faux pas. Et finalement, ils ne savent plus quoi faire. On avait parlé, par exemple, de l'imagination. Et souvent, on sait que des tentations viennent avec notre imagination. Mais il y a tout le côté ultra positif, divin, de l'imagination pour rentrer entrer dans des visions divines pour que notre foi soit inspirée. Et vous ne pouvez pas changer de comportement si vous êtes habitué à faire quelque chose, si vous êtes malade au niveau du comportement par rapport à quelque chose, si vous ne comprenez pas la puissance du comportement opposé. Ça veut dire que souvent, par exemple, on va dire les pensées, non, il faut que je chasse mes mauvaises pensées. Alors, il y a des gens qui font que ça. Oui, d'accord, mais si ta pensée est vide, les mauvaises pensées vont revenir. Donc, tu as l'autre partie, la puissance de prendre la parole de Dieu et de passer du temps, de t'imprégner de cette parole. C'est la même chose avec le mensonge et la vérité. Si tu es malade du comportement du mensonge, d'un comportement mensonger, trompeur, il va falloir que d'abord tu découvres la puissance de la vérité. Parce que tu vas découvrir que parler la vérité, il y a une puissance extraordinaire. Une puissance de protection. Une puissance où le royaume de Dieu peut venir avec efficacité dans ta vie. Parce que tu parles des choses. Tu te retrouves devant une assurance qui est la vérité. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, dans la définition du mensonge, il y a deux côtés. Il y a cet aspect de déformer des informations volontairement. Mais il y a aussi cet aspect de dissimuler certaines choses. Alors maintenant, comprenez-moi bien. Il y a certaines choses que tu peux partager avec certaines personnes et il y a d'autres choses que tu gardes personnellement dans ton intimité parce que ça fait partie de ton intimité, bien sûr. Mais il y a pas mal de choses quand tu parles à quelqu'un, si c'est une situation, si c'est dans une relation à un certain niveau, ou si c'est vis-à-vis de ton supérieur, il y a des choses que tu dois dire. Si tu les divulgues, tu mens. Donc dans ces deux aspects, il faut faire attention. Alors le mensonge, c'est une forme de manipulation. Et la manipulation, c'est quoi? C'est essayer de faire des pressions sur la volonté de quelqu'un pour qu'il agisse de la manière avec laquelle tu veux qu'il agisse, c'est-à-dire qu'il faire des choses que tu veux toi qu'il fasse. Donc c'est une forme de manipulation qui vise à faire croire ou à faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou qu'il n'aurait pas fait s'il avait connu la vérité. Par exemple, si tu t'engages dans une relation avec quelqu'un et que tu lui as menti, cette personne peut-être n'aurait jamais été jusqu'à un certain point dans cette relation si elle avait su la vérité sur certaines choses. Par exemple, tu n'aurais pas acheté telle chose si tu avais su la vérité à propos de cette chose. Si on t'avait vraiment expliqué tout par rapport à cette chose. Alors, il y a des gens qui sont très spécialistes dans ce que j'appelle le demi-mensonge. Et vous savez, c'est comme l'histoire du verre, je le dis souvent. Si vous prenez un verre vide, que vous le remplissez à moitié, et que vous dites aux gens, est-ce que ce verre est à moitié plein? Ou est-ce qu'il est à moitié vide? Il y a de grandes discussions philosophiques qui peuvent être sur ce sujet. Parce que les deux ont raison et les deux ont tort. Et il y a des gens qui se sont spécialisés dans ce genre de choses. Très souvent, c'est ce qu'on voit, par exemple, en entretien pastoral. Moi, quand quelqu'un me raconte quelque chose sur quelqu'un d'autre, je ne le prends jamais comme argent comptant. J'attends d'attendre l'autre version pour me faire une opinion. Parce que ça, c'est le problème qu'il y a souvent. Quand quelqu'un vient te voir, il te présente la facette de son histoire. Et dans la facette de son histoire, surtout s'il a été troublé, s'il a des problèmes, il va te présenter qu'une partie de la vérité. Certains faits, il va te les rapporter exactement. D'autres faits, peut-être qu'il va te les rapporter d'une façon mensongère. Ou d'autres faits encore, il va te les cacher. Ça, c'est ce que j'appelle des demi-menteurs.
Dis
à ton frère à côté, ne sois pas un demi-menteur. Le menteur est quelqu'un de malhonnête. Il est trompeur. Son objectif, c'est de tromper, c'est de tricher. Donc le menteur est malade du comportement. Le mensonge, c'est les ténèbres. C'est exactement l'opposé de la vérité. Et c'est grave. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Regardez ce que la Bible dit. La Bible est claire par rapport aux menteurs. Et je veux vous aider à extirper ça de votre vie, certains d'entre vous, et d'autres à être précis dans les informations que vous donnez. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont éduquées malheureusement par d'autres personnes et mal éduquées. Et vous savez, la vérité n'a qu'une facette. Il y a des gens qui vraiment ont appris à tromper et pensent toujours s'en sortir, mais je vais vous montrer le piège de vouloir tromper les autres. Et je vous montrerai aussi la puissance de la vérité. Et je vous montrerai aussi qu'il faut apprendre à dire les choses avec précision. Chapitre 6 de Proverbes, au verset 16, il est dit: il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui déchaîne les querelles entre frères.
Ngo hari ibintu bitandatu uhoraho yanka mbere ngo nindwi bimusesema amaso y'ubwibone n'ururimi rw'ibinyoma n'amaboko avisha amaraso y'aberanda n'umutima ugera imigabo mibi n'ibirenge byihutira kwirukira ikibi nicabona c'ibinyoma kivuga iby'ubuhumyi iby'ubuhumbyi n'uvyura imitongano mu bavukana.
Remarquez que sur ces 7 choses dont le Seigneur a vraiment en horreur, il y en a 2 sur 7. 2 sur 7 qui concernent le mensonge, qui concernent de dire des paroles qui sont fausses. Donc Dieu est clair dans sa parole. Dieu a horreur du mensonge. Pourquoi est-ce que Dieu a horreur du mensonge? C'est très simple. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Jésus a dit: je suis la vérité. Et la vérité et le mensonge, ils sont infiniment opposés. Dieu est un Dieu de vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ce que Jésus a dit. Dieu est un Dieu de vérité. Et tout ce qui s'oppose au caractère de Dieu ne plaît pas à Dieu. Ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça que quand nous sommes malades de ce genre de comportement, eh bien, il va falloir le couper dans nos vies. Parce que sinon, ne te fais pas d'illusions. Tu peux prier. Tu peux venir dans l'église. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux lever tes mains vers le Seigneur. Si tu es malade du comportement du mensonge, tu ne pourras jamais prospérer. Tu ne pourras jamais prospérer. Et certaines personnes ont même du mal à s'en rendre compte. Il y en a, ils le font vraiment parce que c'est prévu d'avance, planifié. Mais il y en a d'autres, eh bien, c'est tellement ancré en eux-mêmes qu'à chaque fois qu'ils vous donnent une information, vous êtes obligé de mettre votre filtre vérité automatique en marche pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Et c'est vraiment une parole tronquée, comme ça. Quand on vit au Burundi, il faut avoir l'interprétation des langues. Maintenant, nous allons voir la source du mensonge. Jean 8, verset 44. La source du mensonge. La source du mensonge, Jean 8, 44. Jésus s'adressait à des Juifs qui n'étaient pas nés de nouveau. Vous savez, on devrait faire au moins 10, 20, 30 ou 50 messages, ou peut-être passer toute une année sur ce sujet. Parfois, c'est tellement ancré chez certaines personnes qu'il faut les nettoyer jusqu'à temps qu'ils soient propres et les renettoyer et encore les nettoyer par rapport à ça. La parole de Dieu nous lave, frères et sœurs. C'est ce que la Bible nous dit, elle nous lave. Et nous avons besoin d'être lavés par la parole. Jésus, dans Jean 8,44, vous avez pour père le diable. Ça, c'était les gens inconvertis, s'adressaient à des Juifs inconvertis. Nous, notre père est Dieu, justement. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Jésus nous dit bien que le diable est quoi? Le père du mensonge. Et vous savez que l'histoire de l'humanité a été terriblement affectée par un mensonge. Tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre, qu'il y a eu du péché, de la maladie, de la pauvreté, de la mort, tout ce qui est pourri, tout ce qui est trace de mort sur la terre, a été initié par quoi ? Un mensonge. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, mes frères et sœurs? Tout ce que vous voyez, toute la vanité de cette terre, toutes les horreurs qu'on peut entendre sur cette terre, depuis la chute d'Adam et Ève, jusqu'au dernier jour où Dieu dira « ça suffit » et qu'il viendra prendre possession de sa propriété, tout cela a été fondé sur d'abord un mensonge, initié par un mensonge. Genèse chapitre 3, verset 1. Imaginez-vous. Réfléchis à chaque fois que tu vois une personne qui meurt. À chaque fois que tu vois une maladie quelque part. À chaque fois que tu vois le mal se manifester quelque part. À chaque fois que tu vois une trace de mort, quelle qu'elle soit, que ce soit chez les hommes, les animaux, sur cette terre en général. Initié par un mensonge. Imaginez-vous, un mensonge a changé l'histoire de l'humanité. Un mensonge cru et pratiqué a été la racine de tous les maux de l'histoire de l'humanité. Parce que ce mensonge a été cru Et il a mis toute la race humaine sous la malédiction de la chute. Dieu soit béni, Jésus nous a racheté de la malédiction. Mais quelle souffrance, quelle pourriture à cause d'un mensonge. Genèse 3, je vais lire principalement en français. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme... Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin ? La femme dit au serpent, nous mangeons tout, du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et la femme, bien sûr, nous savons, Ève va pécher. Donc nous voyons ici que l'histoire de l'humanité a été entièrement bouleversée par un mensonge. C'est le premier mensonge que nous voyons dans la parole de Dieu qui nous est relaté. Et à cause de cela, les hommes ont été mis sous la malédiction de la chute. Là où Dieu avait prévu un plan extraordinaire, un paradis terrestre, ça a été gâché à partir d'un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Ça a été une catastrophe pour l'histoire de l'humanité. Donc nous savons que le mensonge a son origine au travers du diable. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose. Le mensonge chez l'homme, c'est une œuvre de la chair. Influencé par une atmosphère spirituelle mauvaise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez. Vous savez, c'est comme la colère. Quand je vous ai enseigné sur la colère récemment, il y a beaucoup de gens qui prient et qui disent « Oh Dieu, je chasse cet esprit de colère dans ma vie. » Et je vous ai dit que la colère n'était pas un mauvais esprit. Je vous l'ai prouvé dans l'Écriture. Le mensonge, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire je chasse cet esprit de mensonge. Non, la Bible va nous parler que nous avons un rôle, nous avons une responsabilité. Ephésiens 4. Parce que vous savez, les champions du monde de l'irresponsabilité quand ils ont des problèmes, ce sont bien les chrétiens. Quand les chrétiens ont des problèmes, ils disent, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ou alors ils disent, ah, c'est le diable qui l'a fait. Ça, c'est typique. Ou c'est de la faute de l'autre. Non. Prenons nos responsabilités, frères et sœurs. Et la Bible sera claire vis-à-vis du mensonge dans Ephésiens chapitre 4. Nous avons un puissant passage. Et je vous rappelle que l'épître aux Éphésiens a été écrite aux chrétiens qui étaient le plus enseignés. C'était l'église qui était la plus avancée spirituellement parlant dans l'église du premier siècle. Et Paul va leur parler clairement, va les enseigner profondément. Alors, verset 20, bon, on va lire un peu plus haut. Et je vais lire à partir du verset 17, et on lira quelques versets en Kirondi. Ephésiens chapitre 4, verset 17, il dit « Voici donc ce que je vous dis, et j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, c'est-à-dire ne plus vous comporter, marcher comme, ça veut dire se comporter, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » On pourrait dire « Vous devez avoir un comportement différent, vous devez guérir de certains comportements, si on pouvait actualiser peut-être. » Avec des mots plus parlants pour nous aujourd'hui. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et leur durcissement de leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau, nous le savons. Ils ont la nature satanique en eux, dans leur esprit. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire à vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire dans vos mentalités, qui va vous amener à un changement de comportement et à revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25, il va tout de suite mettre, je dirais, mettre une petite phrase, un petit morceau de phrase, une expression. Il va dire « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, ça veut dire « avec tout ce que nous avons dit là-haut ». Plus haut. Vous marchiez comme ça avant parce que vous n'étiez pas né de nouveau, voilà. Votre nature spirituelle était étrangère à la vie de Dieu. Mais maintenant, il va falloir vous revêtir. C'est-à-dire changer votre comportement. Et Paul dit, la première chose qu'il dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle à avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres.
Vous
voyez, après, il y a les versets sur la colère que nous avons largement étudiés précédemment. Mais la première chose que Paul leur dit, il leur dit, dépouillez-vous de l'ancienne vie, des comportements de l'ancienne vie. Adoptez des nouveaux comportements. Et la première chose qu'il dit, renoncez aux mensonges. Il
ne
dit pas, passer par des séances de délivrance. Il dit pas continuer à blâmer les autres pour ne pas dire la vérité. Il ne dit pas prier pour ne plus mentir. Il dit renoncer. Ici, c'est un impératif, c'est-à-dire c'est un ordre. Il dit, voilà ce que vous devez faire, voilà votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, ce n'est pas un mauvais esprit, c'est guérir d'un comportement, d'un mauvais comportement qui nous amène à faire des choses que Dieu a en horreur. Tout le monde dit, Dieu a en horreur le mensonge. Dites ça, s'il vous plaît.
Dieu a en horreur le mensonge.
Dis ça à ton voisin. Dieu a en horreur le mensonge.
Dieu a en horreur le mensonge.
Amen. Ça, c'est important à comprendre. C'est un comportement qui déplaît fortement à Dieu. C'est la première chose que l'apôtre Paul nous dit pour nous dépouiller de quelque chose. Maintenant, quelles sont les raisons du mensonge? Pourquoi est-ce que quelqu'un va mentir?
Eh
bien, il y a trois raisons fondamentales pour lesquelles les gens mentent. La première, c'est des gens qui veulent projeter une image d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas. Ou d'une chose qu'ils veulent embellir ou dégrader à l'extrême. Mais là, on va parler de choses à propos de nous-mêmes. Il y a des gens qui se présentent sous un jour qui n'est pas le vrai jour. C'est le cas souvent, malheureusement. Ils sont incapables de dire qui ils sont réellement. On voit par exemple beaucoup de gens changer d'église dans le monde entier. Et la plupart du temps, les gens changent d'église pour de mauvaises raisons. Il y a des gens qui changent d'église pour de bonnes raisons, parce que, là, par exemple, il n'y a pas une bonne parole de Dieu dans leur église. Il n'y a pas la présence de Dieu, ou ils ne croient pas dans certaines choses fondamentales de la Bible. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines personnes qui changent d'église parce qu'elles ont un problème grave de péché. Et ils viennent et ils se présentent sous un certain jour. Où il y a un garçon qui se présente devant une fille sous un certain jour. Il vient chercher la jeune fille avec une belle voiture et il lui dit « Regarde ma belle voiture » alors que c'est la voiture de son copain. Vous Il y a beaucoup de gens qui savent se présenter sous un espèce de jour pour tromper les autres. Saül faisait partie de ces gens-là. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, Saül a vraiment loupé son coup. Parce que je vous montrerai une chose aussi très importante. Mon frère, ma sœur, tu fréquentes des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Fais attention. Parce que quand quelqu'un a l'esprit de vérité en lui, si tu commences à vouloir le tromper, et que cette personne a un esprit aiguisé, je ne parle pas des gens qui soupçonnent le mal chez tout le monde. Parce qu'il y en a, ils sont tout le temps comme ça, en train de soupçonner les moindres faits et gestes ou paroles. Ça, c'est mauvais. Mais sachez une chose, quand quelqu'un a l'esprit de vérité en lui, et qu'il a grandi dans le Seigneur, et bien il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à partir du moment où tu essayes de le tromper, il y a quelque chose qu'il va réaliser. Parce qu'il a l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité va lui transmettre la vérité sur la situation. Samuel était prophète. Saül va vraiment gaffer gravement ce jour-là. C'est dans 1 Samuel chapitre 15. Et Dieu va lui donner, en fait, lui donner une autre chance à Saül d'ailleurs, qui commençait déjà à disjoncter sérieusement. Et chapitre 15, verset 1, il est dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple d'Israël, sur Israël, pardon. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à la sortie d'Égypte. Alors ça, vous trouvez cette histoire dans Exode chapitre 17. C'est Amalek, des ennemis d'Israël, qui voulaient empêcher Israël et qui se sont battus contre Israël.
Et
c'est l'histoire dans Exode 17, vous savez, où Moïse levait ses mains comme ça, et quand Moïse levait ses mains en haut, c'était Israël le plus fort. Et au bout d'un moment, Moïse était fatigué, alors il a commencé à baisser les bras, et là, Amalek devenait le plus fort. Et donc, il y a eu deux personnes qui ont soutenu les deux bras de Moïse, un de chaque côté, pour qu'Israël reste dans la victoire. Et voilà ce que Dieu va dire au travers du prophète Samuel à Saül, au roi Saül. Il va dire clairement, verset 3, « Va maintenant, frappe Amalek, et vous et par interdit, c'est-à-dire détruisez tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs, agneaux et chameaux. » Verset 3. Donc, l'ordre de Dieu était clair. Tout ce que vous allez faire sur Amalek, c'est que vous allez tout détruire. C'était bien tout. Donc Saül va avec son armée, il bat Amalek. Au verset 9, il est dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer par interdit, c'est-à-dire le détruire. Ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et là, Saül, après la bataille, Dieu prévient Samuel comme quoi Saül n'a pas obéi à sa voix. Je vais simplement lire ce passage en français, verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. Je regrette d'avoir a établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui rapporta, Saül est allé à Carmel et il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné en passant plus loin et il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, béni soit l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. Voilà, verset 13, s'il vous plaît.
Samuel ashikira Sauli, Saul aramubarira, aturagahezagirwa n'Uhoraho. Icyo Uhoraho yambariye nagishikije.
Voilà tout à fait quelqu'un qui ment pour projeter une meilleure image, la meilleure image possible de lui-même.
Nuko rero umuntu akora iyo agomba kwerekana igicapo cyiza kuri we atari ko asanzwe ameze.
Moi j'ai remarqué une chose, quand vous rencontrez des gens pour la première fois, et qui commence tout le temps à parler moi, je, ça commence à sentir mauvais. Une chose qu'il faut vous apprendre à faire, c'est à écouter. Écoutez ce qu'on vous dit et écoutez votre nature spirituelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez, les gens qui parlent d'eux-mêmes constamment, c'est souvent des gens qui veulent projeter une certaine image d'eux-mêmes. Ils se présentent comme tel, ayant fait telle chose. Je sais que c'est souvent une technique, par exemple, quand des gens veulent se faire embaucher. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme ça parce qu'ils veulent donner une certaine image. En tant que pasteur, on voit souvent ces choses-là. Où les gens vous présentent une meilleure image de ce qu'ils sont. Fais attention à quelle image tu projettes quand tu parles de toi-même. Parce que tu vas réaliser souvent que tu ne dis pas la vérité sur toi-même. Et crois-moi, si tu commences par toi-même à ne pas dire la vérité sur toi-même, ça prouve que tu es malade du comportement. Tu es malade au niveau de ton comportement, au niveau du mensonge. Tu te présentes comme quelqu'un qui est ceci ou cela. Faites très attention avec les gens qui se présentent trop bien. Observez-les avant de vous faire une opinion. Je ne vous dis pas de les juger, je vous dis simplement de savoir exactement là où ils en sont. Ça vous évitera bien des problèmes relationnels d'apprendre à observer par rapport aux paroles. Parce que les actions qui sont coordonnées avec les paroles dénotent une vérité. Font transpirer une vérité. Des actions qui ne sont pas coordonnées avec des paroles montrent qu'une personne est malade du comportement mensonger. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Je vous rappelle une chose, les actions parlent beaucoup plus dans nos vies que les paroles. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Apprends à agir correctement en pleine vérité et que ça soit coordonné avec tes paroles. Ici, la première chose que Saül a voulu faire, c'est projeter une image du bon leader qui a exactement exécuté la parole de Dieu. Combien de fois nous demandons à des gens de faire des choses d'une certaine façon? Ils vous diront, vous leur posez la question, est-ce que tu as fait ça? Vas-tu dire, oui, bien sûr. Tout est prêt. Tu arrives, rien n'est prêt. C'est souvent le cas. Si même toi tu te comportes comme ça, c'est mauvais. Et si tu dis que tu as fait une chose alors que c'est mal fait, c'est fait à moitié, ça veut dire que tu n'es pas capable de t'évaluer toi-même. Et tu as un mauvais comportement et tu projettes une image par rapport à quelqu'un à qui tu dois des comptes. Parce que Parce que dans la vie, de toute façon, il y a toujours un système d'autorité, de soumission. Partout, nous avons des comptes à donner d'une manière ou d'une autre. Tu peux même être dans une position élevée, tu as des comptes à rendre à quelqu'un de toute façon. D'une manière ou d'une autre. Tu en as eu, et tu en auras toujours. Donc, tu dois être capable de dire pleinement, bon, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais voilà quel problème j'ai rencontré. Sinon, ça veut dire que tu projettes une image. Alors, il y a des gens qui ont du mal à s'évaluer, et on ne peut pas les taxer de menteurs directement. Ça, c'est plutôt un problème d'excellence de caractère, où ils ont du mal à réellement vous décrire une situation telle quelle. Par exemple, ils vont vous dire, oh, il y a beaucoup de monde qui est venu ce jour-là. Et puis, vous interrogez d'autres personnes qui ont peut-être une appréhension des choses beaucoup plus claire. Vous direz, bon, bah, ce jour-là, il y avait 30 personnes. C'est une grande foule, 30 personnes? Non, c'est peu de gens. Vous voyez, et des gens parfois ont du mal à évaluer. Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais il y a des gens qui délibérément veulent projeter une image. C'est-à-dire, ils essayent de montrer aux autres quelque chose qu'ils ne sont pas. Saül avait ce problème-là. Et croyez-moi, il a été disqualifié de sa destinée. Il est tombé dans d'autres péchés après. C'est vrai qu'il était arrogant aussi, mais avec le mensonge, l'arrogance, ça va souvent ensemble. Plein d'orgueil. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme voulait projeter une image qui était fausse. Il vient auprès du prophète Samuel. Il dit, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a demandé. Samuel savait très bien que c'était faux. Il n'avait pas du tout exécuté. Il voulait tromper. Il avait délibérément désobéi. Donc faites extrêmement attention à l'image que vous voulez projeter, parce que c'est la première raison pour laquelle les gens mentent. Quelqu'un repère une jeune fille qui lui plaît. Il va lui raconter tout un tas de baratins pour l'attirer à elle. Et si elle est dans une situation de mauvaise raison de se marier, elle va tomber dans le piège. Par exemple, une situation classique que nous voyons avec les jeunes filles ici, c'est une jeune fille qui se sent très mal dans son environnement familial. Elle veut par tous les moyens en sortir, et le premier garçon qui va se présenter, il peut même lui mentir et lui raconter tout ce qu'il veut. Elle va tomber dans le piège. Pourquoi ? Parce qu'elle veut absolument sortir de sa situation familiale, qui est mauvaise, qu'elle n'aime pas. Et elle pensera que le mariage va résoudre son problème. Et le garçon saura très bien y faire dans ce domaine-là. Quand il y a des gens qui sont malades du comportement mensonger, c'est exactement ce qui se passe. Le garçon connaît très bien la faiblesse ou les faiblesses de la jeune fille. Il va en profiter. Il va lui montrer un aspect de sa vie qui est faux. Il va projeter une image. Il va lui dire des paroles qui sont fausses. Des choses qu'il n'a aucune intention de réaliser. Des choses qu'il n'est absolument pas du tout. Et comme la jeune fille va vouloir sortir de son mauvais environnement familial, ou l'environnement familial où elle n'arrive plus à respirer, entre guillemets, elle va écouter tout, être aveuglé et se retrouver avec des difficultés. La deuxième raison pour laquelle les gens mentent, c'est pour se protéger. Pour se protéger de mauvaises actions. se protéger de mauvaises actions. Ça, c'est tout à fait typique du menteur. Le menteur a fait un certain nombre de choses qui sont mal et il veut s'en protéger. Donc, il va se couvrir. Il va se couvrir. Et dans la protection aussi, on verra aussi des gens qui mentent parce qu'ils ont peur que ça amène des représailles dans leur vie ou des choses difficiles par lesquelles ils vont passer. On va prendre d'abord le premier cas. Pour se protéger, quelqu'un qui fait quelque chose de mal, par exemple quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a trompé, qui a triché, qui a fait toutes sortes de choses, et la personne va jurer au nom de Dieu qu'elle n'a jamais fait ça. Vous savez, les policiers, ils voient même des gens venir avec la Bible en main, et je jure sur la Bible, le menteur jure sur la Bible qui n'a jamais fait ça. Et il vous racontera même, le menteur vous racontera même qu'il va prier à l'église El Shaddai. Ah, les policiers, ils en voient. Hein. Je parle de vrais policiers chrétiens, je ne parle pas de policiers qui sont prêts à... Mais ils voient des sacrés menteurs. Ne jamais vouloir dire la situation telle qu'elle est parce que ces gens-là se protègent. Mais malheureusement, ils vont tomber dans quelque chose de terrible. Parce que mentir est une chose. Mais c'est dur de rester dans un mensonge. Et c'est encore plus dur d'en sortir. Parce qu'il y a une chose de rentrer dans le mensonge. Il y a une autre chose de rester dans le mensonge. Mais il y a quelque chose d'encore plus difficile. C'est de sortir indemne du mensonge. Et c'est là où souvent le menteur se fait avoir. Parce que quand il a menti, il est obligé de toujours conserver la même histoire. Sous les pressions, avec le temps, l'histoire doit demeurer la même. Parce que s'il a dit certaines choses qui paraissent, qu'il essaie de faire paraître pour la vérité, et qu'après il change ses paroles, il se découvre lui-même. Donc il est obligé de rester dans son mensonge, donc dans son péché. Il est là, il est environné, il est coincé de part et d'autre parce qu'il est obligé de marcher dans la même histoire. Ce qui parfois lui pose beaucoup d'ennuis de stratégie. Les vrais menteurs à long terme doivent être des gens très intelligents. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de menteurs. Parce qu'ils rentrent dans le mensonge, mais ils ont du mal à rester dans leur mensonge. Parce qu'il y a un moment où il y a des questions qui sont posées. Il y a le temps qui passe. Il y a d'autres informations qui viennent autour de leur histoire. Et obligatoirement, au bout d'un moment, il se retrouve coincé quelque part. Et très souvent, il veut en sortir. Mais là, il se retrouve coincé. Parce que la vérité fait jour, tôt ou tard. Tôt ou tard. Il y a des gens qui mentent pour se protéger d'une autre façon. Et c'est tout aussi mauvais. C'est pour se protéger. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Parce que parfois ils sont entourés de gens qui peuvent avoir, faire des représailles contre eux. Ou parce qu'ils ont fait une gaffe, une bêtise. Une gaffe dans le sens de bêtise. Qui n'est pas forcément très grave. Mais plutôt que de dire tout de suite j'ai fait ça, ils ont peur que, par exemple, d'être virés de leur job. Ils ont peur, par exemple, une femme qui a peur de la représailles de son mari, des représailles de son mari. Toutes sortes de choses comme ça qui se produisent. Ou des gens vont mentir sur une situation. Attention. Il vaut mieux dire la vérité et subir les conséquences de nos actions. Si vous n'acceptez jamais de subir les conséquences de vos actions, ça veut dire que vous êtes des gens irresponsables. Vous pourrez avoir le plus grand appel de Dieu dans votre vie. Dieu ne peut pas oindre des irresponsables. Vous savez pourquoi Adam a été chassé du jardin d'Éden? Une des grandes raisons, c'est parce que c'était un irresponsable. C'était un irresponsable. Les gens irresponsables. Un jour, je vais vous faire un sermon sur l'irresponsabilité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui n'assument pas les conséquences de ce qu'ils font. Beaucoup de gens se couvrent. Ils se couvrent parce qu'ils n'acceptent pas d'assumer leurs responsabilités. Et c'est là où leur maladie de comportement se répand sur toute leur vie et détruise toute leur vie. Vous savez, il est mieux de se faire corriger quand le mal n'est pas trop loin, plutôt que de laisser l'infection envahir toute notre vie et détruire notre vie. Il vaut mieux traiter quand il y a un certain nombre de symptômes, plutôt que se dire c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est vrai pour la maladie. C'est vrai pour la maladie des comportements des gens. Et il faut qu'on soit clair en tant que chrétien. Il faut être capable d'assumer ses responsabilités. Si quand tu fais quelque chose, tu n'es pas capable d'assumer les responsabilités, c'est un sérieux problème dans ta vie chrétienne. Un sérieux problème dans ta vie chrétienne. Il faut que tu apprennes à assumer tes responsabilités. Moi, quand je reçois des gens qui veulent se marier, un des conseils que je leur donne, je dis au garçon, parce que le garçon, c'est supposé être le responsable. Vous savez, il y a beaucoup de garçons qui sont irresponsables. Ils veulent se marier. Vous savez, le garçon, il ne fonctionne pas comme la fille. Le garçon, lui, il est très attiré par la sexualité. Ça, les filles et les dames, vous devez savoir, il faut que vous sachiez ça. La fille, elle est attirée par la sécurité. Elle a besoin de se marier parce qu'elle veut être entourée de quelqu'un et être dans un environnement sécurisé. Je parle de gens normaux. Je parle des gens normaux qui ont un comportement divin.
Okay.
Je ne parle pas de gens qui sont hors normes. Il y en a. Il y a des garçons hors normes, il y a des filles hors normes, il y a des maris hors normes, il y a des femmes hors normes.
Je
parle de ce qui est normal par rapport à Dieu. Et je dis à tous cela. Je dis aux garçons, je dis à Steve, tu emmènes ta fiancée inconnue, de ton pasteur mais connu de beaucoup de
gens,
et vous allez vous raconter toute la vérité sur ce qui s'est passé dans vos vies, tout ce qui s'est passé. Si vous avez été couché à droite à gauche avant votre conversion, qu'est-ce que vous avez fait, etc., etc. C'est important. Parce que quand la personne est, quand vous êtes marié, si tu vois quelqu'un qui commence à tourner autour de ta femme ou de ton mari,
oh
non, mais celui-ci, je ne le connais pas. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Si tu lui as dit la vérité au départ, le Seigneur t'a pardonné, c'est fini, c'est effacé. Mais au moins qu'il le sache. Ou qu'elle le sache. Il faut dire la vérité au départ. Avant de construire, il faut nettoyer le terrain. Après, il peut y avoir des bonnes fondations. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un homme ou pour une femme d'entendre certaines choses qui se sont passées avant le mariage que l'autre ne connaissait pas. Dis à ton voisin, j'espère que tu as des grandes oreilles ce matin sur ce que le pasteur est en train de dire. Vous savez, souvent, on se retrouve avec des problèmes. Parce que nous les avons générés. La majorité de nos problèmes, c'est nous qui les générons. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est souvent l'irresponsabilité du chrétien. Le chrétien dit, ah, j'ai ces problèmes-là. Ah, dans ma vie, c'est encore passé ça. Ah, on m'a encore fait ça. Ah, le diable m'a encore fait ça. Ah, pourquoi, Seigneur, tu m'as encore fait ça? La majorité de tes problèmes, j'irais même jusqu'à 90%, c'est toi qui les as générés dans ta vie. Amen. Un des générateurs de problèmes, c'est de ne pas se dire la vérité. De ne pas se dire la vérité. Et quand les gens commencent et veulent se marier et qu'ils ne sont pas capables de se dire la vérité avant le mariage, vous croyez que quand ils vont être mariés, ils vont se dire la vérité? Le mariage ne va rien guérir. C'est aussi une des mauvaises raisons de se marier. Quand quelqu'un a des gros problèmes, qui pense que parce qu'il va se marier, ses problèmes vont être résolus. J'ai une mauvaise nouvelle, au contraire, ils vont s'amplifier. Et tu feras souffrir le conjoint ou la conjointe. C'est la même chose pour le problème de mensonge. Si tu n'es pas capable de dire à quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie la vérité de ce qui s'est passé avant ton mariage, comment est-ce que quand tu vas être marié, tu vas être capable de lui dire la vérité? Il y a plein de gens qui se retrouvent avec des problèmes comme ça. Le mari qui va faire des dettes sans parler à sa femme. La femme qui va faire des dettes sans parler à son mari. Parce qu'il n'y avait peut-être plus rien, parce qu'elle avait des difficultés. En général, le mari, lui, s'il fait des dettes, vous savez la différence entre un petit garçon et un mari? C'est le prix des jouets. Ça veut dire que quand il est petit, il pourra avoir un petit téléphone portable en plastique. Quand il est grand, il lui faudra un truc à $500. C'est la différence entre le garçon et le mari. Et malheureusement, souvent, il va y avoir des gens qui vont faire des choses comme ça. Tu vas faire quelque chose que tu ne vas pas dire. Soit la personne la plus proche de ta vie, soit ton entourage proche, alors que ça les concerne. Ou par rapport à certaines personnes qui ont des responsabilités sur toi. Et tu ne le dis pas peut-être pour te protéger. Et tu fais une grave erreur. Tu es en train de creuser un trou dans ta vie. Tu es en train d'augmenter une maladie de comportement pour soi-disant te protéger. On va regarder ce passage de l'Écriture dans Genèse, chapitre 18, où on voit Sarah qui va mentir parce qu'elle a peur. Genèse 18, à partir du verset 10, Dieu va parler à Abraham. Il va dire, l'un d'entre eux dit, Il est dit, l'un d'entre eux dit, assurément, je viendrai vers toi l'année prochaine. Verset 10, Genèse 18. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis usée. C'est-à-dire, je ne peux plus avoir des enfants. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? N'y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je viendrai vers toi et Sarah aura un fils. Regardez bien verset 15, il est dit, Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si tu as ri, verset 15 seulement, s'il vous plaît, merci. Et en fait, Sarah a eu peur ce jour-là. Parce que Dieu était en train de lui dire, si tu as ri.
Et
elle a eu peur, et pour se protéger, elle a menti. Elle dit, je n'ai pas ri. Parce qu'elle se demandait quel allait être le futur si elle disait la vérité. Dire la vérité vous donnera une chose qui est très forte dans votre vie spirituelle. C'est d'assumer vos responsabilités. Dieu ne vous confiera jamais rien si vous n'êtes pas quelqu'un de responsable. Dieu ne fonctionne pas avec des gens ultra qualifiés. Mais Dieu fonctionne avec des gens qui sont prêts à changer et qui sont fidèles. Qui sont capables de dire et d'assumer leurs responsabilités. C'est la première partie sur le mensonge. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier ensemble. Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie pour que tu nous aides à comprendre comment nous pouvons changer nos comportements, comment nous pouvons guérir de certains mauvais comportements que nous avons, et particulièrement par rapport aux mensonges. Je prie pour que ta parole soit puissante et qu'elle travaille nos cœurs pendant cette semaine afin que nous puissions découvrir la puissance de la vérité. Peut-être que ce matin, en entendant ce sermon, tu réalises que tu as peut-être caché des choses à ton époux, à ton épouse, que tu as faites. Peut-être que tu réalises ce matin que tu es quelqu'un qui ne veut jamais assumer tes responsabilités. Que peut-être tu as triché et que quand on t'a posé la question, tu as dit non, je n'ai pas triché. Tu as voulu te couvrir. Examine ton cœur ce matin. Repens-toi de cela. Tu dois choisir de marcher dans la vérité. Si tu as des choses à dire à des personnes, tu vas aller leur dire. Parce que c'est comme ça que tu vas commencer à guérir. Et tu assumeras les conséquences. Dieu te protégera. Vous savez, Dieu est bon quand nous parlons la vérité. Mais quand nous cherchons à nous couvrir avec des choses mensongères, tu peux essayer de prier à côté. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu ne peut pas couvrir un mensonge parce que Dieu est le Dieu de vérité. Dieu est un Dieu qui se tient dans la vérité et pour la vérité à 100%. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à marcher dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons après pour tout ce qui est l'autre partie du mensonge.